bonjour et bienvenue dans ce numéro 19 des Agités du Fleu. Les Agités du Fleu, c'est le podcast qui associe théorie et pratique de classe sur Agito. Aujourd'hui, un numéro consacré au MOOC en Fleu. Et pour m'accompagner, je reçois Martine Eisenbeiss. Comment ça va, Martine?
Ça va bien, merci. En direct de Lille.
Eh oui. Alors, Martine est enseignante de FLE au Défi, formatrice de formateurs à l'université de Lille 3, où elle était ma formatrice. L'université de Lille, on ne dit plus Lille 3
Non, c'est fini.
Ah, ça y est, c'est la fusion.
Nous sommes les mêmes universités.
D'accord. Bon, bah, où elle a été ma formatrice. Elle s'occupe aussi des étudiants étrangers en master. Elle a travaillé sur Certiflang FLE. Elle a été chef de projet sur ActuFLE et a monté avec des collègues un dispositif d'auto-formation guidée pour lequel son équipe et elle ont reçu le prix PEPS dans la catégorie recherche en pédagogie. Bravo, hein.
Bah oui, on est fiers. C'était en 2016, hein, c'est un peu loin.
Bah ouais, enfin, bon, c'est toujours un prix. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce MOOC Défi FLE que tu organises. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors le MOOC Défi Delphes, hein, ça s'appelle
Défi Delphes, oui, pardon.
Défi Delphes, c'est un parcours guidé de 6 semaines, un parcours en ligne et gratuit pour se préparer au Delphes B2 et ou pour se perfectionner en français. Donc il s'adresse à tous les étrangers, tous les étudiants ou non internationaux qui veulent se perfectionner en français.
D'accord, donc n'importe qui peut s'inscrire, inscrit au Delphes ou pas d'ailleurs.
Tout à fait, on n'est pas obligé d'être inscrit au Delphes pour suivre ce MOOC. Et on peut s'inscrire dès maintenant, puisque les inscriptions sont ouvertes depuis quelque temps et que le MOOC démarre le 10 février.
Le 10 février, d'accord, ouais. Donc n'importe qui peut s'inscrire, il n'y a pas de limite de nombre, tu acceptes vraiment tout le monde.
C'est le principe du MOOC, hein. Massive, ça veut dire ouvert à tous, donc on est prêt à accueillir une cohorte de quelques milliers peut-être de participants.
D'accord. Alors c'est pas la première édition que tu fais. Qu'est-ce que tu as modifié? Quel bilan tu as tiré des précédentes éditions?
Alors en fait on travaille à deux, hein, surtout donc avec ma collègue Nassim Motebassem et moi-même. On a déjà effectivement fait deux sessions, hein, donc en 2016 et en 2017. Alors ces deux sessions, elles ont eu beaucoup d'inscrits. 4 000 pour la première, 3 000 pour la deuxième. Mais comme dans la plupart des MOOC, en fait, nous avons eu très peu d'étudiants, de participants qui sont allés au bout, c'est-à-dire qui ont fait toutes les activités obligatoires dans ce MOOC. Donc ça, c'est le bilan des MOOC en général. Hein. On est entre 5 et 10 % de pourcentage d'étudiants qui vont jusqu'au bout. Nous, on était à 7%. Donc, on était un peu dans la moyenne.
C'est pas surprenant. Quand tu dis obligatoire, c'est parce qu'il y a un certificat à la fin ou
Voilà. Donc, en fait, il y a des activités obligatoires, d'autres facultatives. Mais si les participants font toutes les activités obligatoires, ils ont une attestation de suivi.
Mmh. D'accord.
Donc, ça, c'était le premier bilan. Le deuxième bilan qui était quand même plus positif, je trouve, c'est qu'on a eu des échanges très riches, très intenses sur les forums. Hein, donc les forums, c'est vraiment une partie du MOOC auquel on a attaché une très grande importance. Il y a des forums thématiques où les étudiants sont amenés à échanger sur des sujets de société qui sont les sujets du Delphes, hein, comme le travail, l'éducation, l'environnement, etc. Où les participants sont amenés vraiment à travailler linguistiquement et culturellement, parce qu'il y a un gros apport aussi d'informations sur la situation de l'environnement, par exemple, en France. Et puis, il y a aussi des forums qu'on a intitulés « Apprendre à apprendre », sur lesquels on propose aux participants de se préparer à passer le Delphes B2, donc à réfléchir sur leur stratégie, sur la manière dont ils peuvent améliorer leur préparation, bien lire les consignes, bien répondre aux questions, bien comprendre ce qu'on attend d'eux, etc. Donc ça, c'était un bilan un peu mitigé quand même, hein, mais l'aspect forum, c'est-à-dire que on a quand même réussi à faire en sorte que les forums restent actifs, que les personnes restent actives sur les forums jusqu'au bout, si on peut dire.
D'accord. Et tu avais prévu de les animer, ces forums, ou ils se sont auto-animés
Non, donc ça, c'est aussi un des atouts de notre MOOC. On a fait le choix de renforcer le tutorat. C'est-à-dire qu'on a une grosse équipe de tuteurs qui sont très présents, surtout sur les forums. Donc, les forums sont animés. On répond aux questions, on relance les discussions. C'est ce qu'on appelle un tutorat non seulement réactif, mais aussi un tutorat proactif. On n'hésite pas à lancer les discussions, par exemple.
D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre ces histoires de forums, parce que j'avais l'impression que c'était un peu passé de mode il y a quelques années. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour en force de ces forums. J'en vois partout sur plein de sujets. Je croyais qu'ils allaient être remplacés, tu sais, par des sites comme Reddit ou des choses comme ça. Mais en fait, on revient un peu quand il y a des sujets très spécialisés. Je crois que les gens, ou même surtout en formation, les gens aiment bien avoir ces forums. Et nous, sur notre plateforme d'enseignement, tu vois, il y avait une collègue qui utilisait beaucoup les forums, qui essayait de nous convaincre. Alors moi, j'étais un peu plus tiède en disant ouais, oh, t'es sûr, un forum. Et en fait, c'est elle qui avait raison et moi qui me plantais. Dans un espace de formation, ça a toujours tout son sens, quoi.
Surtout quand on est dans de la formation en langue étrangère, parce qu'il est quand même important que les participants pratiquent la langue. Alors bien sûr, ça pose la question du feedback qu'on apporte derrière, hein, mais dès lors que les personnes pratiquent la langue, sont en situation de production, d'interaction, c'est nécessaire dans les langues étrangères, hein, c'est quand on apprend une langue étrangère.
Ouais, mais tu sais, moi je m'étais dit peut-être qu'un groupe WhatsApp finalement ça aurait pris le pas dessus et je crois que non, les gens sont contents d'avoir toutes les possibilités d'édition, de retouche et tout ça, et puis effectivement les interactions du coup avec les modérateurs sont plus claires, je trouve.
Bien sûr, mais un groupe WhatsApp à 3000 apprenants, c'est pas possible.
Ouais, non. Voilà, ça deviendrait compliqué, quoi. C'est clair. C'est clair. Et par rapport aux deux précédentes éditions, tu as apporté des modifications à ce MOOC le bilan que tu tires, il est là et difficilement modifiable, quoi.
Ben, en fait, on garde le même canevas, hein, mm-hmm. en quelque sorte. Déjà, entre la première et la deuxième session, on avait réajusté les activités où se fait l'évaluation par les pairs. Hein, donc ça, c'est une des caractéristiques des MOOC. Comme effectivement, les tuteurs ne peuvent pas corriger toutes les productions de tous les apprenants, on met en place une évaluation par les pairs. Les apprenants se corrigent entre eux. Et ça, ça n'avait pas été très satisfaisant lors de la première session, parce que c'était très difficile à organiser. Certains apprenants attendaient désespérément que d'autres apprenants les corrigent, etc. Donc, on a mis en place pas mal de réajustements pour simplifier l'évaluation par les pairs. Mais toujours en s'appuyant sur la grille d'évaluation du DELF qui sont proposées pour corriger le DELF, les épreuves de production écrite et de production orale. Donc, on a réajusté ces activités. Et puis, on a aussi renforcé les consignes. Donc, tout à l'heure, je parlais du tutorat proactif. On parle beaucoup, nous aussi, d'un tutorat en amont. En fait, une sorte de présence tutorale. On essaie vraiment de proposer à l'apprenant des consignes très claires, qu'on a beaucoup rationalisées, pour que l'apprenant se sente vraiment encadré, malgré l'aspect massif du MOOC, bien sûr.
Non, mais en plus, ça, je comprends tout à fait, parce que en tant que, tu vois, quand moi j'ai suivi en tant qu'apprenant des MOOC, je trouvais qu'il n'y avait rien de plus frustrant que des consignes trop vagues, tu sais, où tu peux répondre en trois pages ou en trois lignes, quoi. Oui. Et ça encourage, je trouve, le fait d'avoir des étapes claires de ce qu'on attend de toi, de te dire ce qui sera évalué, ce qu'il faut que tu fasses le plus clairement possible. Je trouve que ça, au niveau de la participation, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel en tant qu'apprenant.
Ça nous tenait vraiment à cœur. Alors là, sur la troisième session, on a travaillé avec un ingénieur pédagogique qui, lui, nous a beaucoup aidé à ajouter des icônes aussi, qui parlent plus, je pense, plus encore que 10 lignes de consignes. Il y a des icônes du type facultatif, obligatoire, des outils, des activités, voilà, qui permettent, je pense, aux apprenants de mieux se retrouver sur la plateforme.
Ouais. Et d'ailleurs, en termes de plateforme, tu utilises quoi alors ?
Alors, on a fait le choix d'utiliser Moodle.
D'accord.
Donc Moodle, c'est très connu dans toutes les universités et dans beaucoup d'institutions. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas imaginer, qui peuvent pas l'imaginer peut-être, mais Moodle, ça peut être très très beau. Et notre MOOC, il a cette particularité d'avoir vraiment été customisé avec des couleurs, avec des icônes, avec des symboles. Et quand on voit le MOOC, on n'arrive même pas à imaginer qu'on est sur Moodle.
Ah bah oui, oui.
Alors, pourquoi ? En fait, on avait la possibilité de travailler sur FunMOOC, qui est la grosse plateforme française où sont publiés la plupart des MOOC français et francophones. On a fait un autre choix. On a fait le choix de Moodle pour deux raisons. La première, c'est que les ressources qu'on utilise dans le MOOC Défi Delphes étaient préexistantes à la création du MOOC. Ce sont des créations qui existaient déjà sur le site de l'UOH, par ailleurs. Et si on avait travaillé sur FunMOOC, on aurait dû démanteler ces ressources et les reconstruire complètement techniquement, ce qui était pour nous impossible à envisager. La deuxième raison, c'est la structuration des forums, qui est, à mon avis, un des points faibles de FunMOOC, même si FunMOOC présente aussi beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que sur FunMOOC, en fait, on ne peut pas distinguer des forums, mettre en place des forums différents chaque semaine, par exemple. Ce que nous avons pu faire, nous, sur Moodle.
D'accord.
Donc, ça répondait vraiment à nos besoins techniques et pédagogiques.
Ah bah oui, oui.
Oui.
Et du coup, si on parle de ressources comme ça, vous étiez, tu as mentionné ta collègue, mais vous êtes combien à travailler sur... Il y a eu combien de personnes qui ont travaillé sur ce MOOC alors ?
Alors...
pour la mise en place. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr, construire un MOOC, c'est travailler en équipe. Ça, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. Et il faut que tout le monde soit impliqué dans le projet parce que ça demande un grand engagement. Dans la préparation, certes, mais au moment où les six... où on entre dans le MOOC, où le MOOC démarre, on sait que pendant 6 semaines, on va être peut-être jour et nuit, pas complètement, mais quand même assez souvent sur le MOOC pour voir si tout se passe bien. Donc, on est deux enseignantes conceptrices, hein, Nassim Motebassem et moi-même. On a, alors je réfléchis, nous-mêmes, donc nous serons tutrices sur le MOOC pendant le déroulement du MOOC, et on a trois tutrices en plus, donc tutrices pédagogiques.
D'accord.
Et on a aussi deux tuteurs. Donc, c'est important de répartir les rôles. Hein. Même au sein de ces cinq tutrices, les rôles sont déjà répartis. C'est important de savoir qui fait quoi. Et on a en plus deux tuteurs techniques qui vont être là pour répondre aussi aux apprenants sur des problèmes techniques qu'ils vont peut-être rencontrer. Sinon, bien sûr, pour la conception, on travaille avec nous des ingénieurs pédagogiques. Alors pour la première session et la deuxième session, c'était en plus un étudiant de Master 2, donc c'était bien super pour lui de pouvoir valoriser sa formation et son expérience, et d'ailleurs maintenant il est parti, il s'est envolé vers une carrière magnifique.
Super,
et puis on a aussi travaillé avec des graphistes et des vidéastes, parce qu'on a refait des vidéos d'étudiants qui présentent chaque module.
D'accord. Et, et des développeurs aussi ou
Ouais, quand je dis ingénieur pédagogique, c'est des gens qui ont à la fois la compétence de développeur et de quand même prise en compte des attentes pédagogiques, des besoins pédagogiques. Ça, c'est un métier qui est très, très, très demandé aujourd'hui dans les universités françaises, par exemple. Hein, le métier d'ingénieur pédagogique, et ça nécessite beaucoup de compétences, d'ailleurs.
Ah bah oui, parce qu'il faut pouvoir programmer cette plateforme et puis penser à son interface utilisateur aussi. Donc même si tu avais un graphiste, si tu veux, il faut faut quand même réussir à mettre tout ça en place, quoi.
Oui. Puis l'ingénieur pédagogique doit aussi écouter les demandes des enseignants, des concepteurs, mais en même temps, il ne peut pas répondre à toutes les attentes des concepteurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un travail de réajustement constant entre ce que les concepteurs souhaitent, ce qui est possible d'un point de vue technique. Et ça, c'est un travail intéressant, très intéressant.
D'accord. Et donc, en termes d'hébergement, alors, tu l'as mise, tu sais où elle est hébergée, cette plateforme ?
Alors, Pour les premières, deux premières sessions, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle EduNao, qui nous avait fourni cette, ce Moodle amélioré. Et pour cette troisième session, on a fait le choix de travailler avec le Moodle de l'Université de Lille.
D'accord.
Donc on a customisé pour l'occasion, mais là, on travaille vraiment avec nos collègues de l'Université de Lille uniquement.
Et là, c'est bien quand même d'avoir, d'avoir une équipe qui s'occupe de ça, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que, qu'une plateforme trop lente ou qui charge mal parce qu'elle est, elle est pas bien hébergée. C'est,
ouais.
Et ouais. Sans parler après de la sécurité effectivement des données. Hein.
Bien
même
sûr.
Si toi, le MOOC est gratuit, donc il n'y a pas trop de stockage d'informations personnelles sensibles, mais c'est quand même bien d'avoir... d'avoir quelqu'un qui puisse sécuriser tout ça. Hein.
Ah oui, là, on a des services informatiques qui sécurisent hein, tout ce qui est, tout ce qui est, tous les outils informatiques de l'université. Mais c'est vrai qu'on doit faire très attention, on doit veiller à ce que les données ne, qu'il n'y ait pas de fuite des données non plus. Hein. On a cette responsabilité-là, bien sûr. Ouais.
En termes de budget, tu aurais un ordre d'idée de quel coût ça a, ce MOOC, alors?
Alors, c'est souvent la question hein, du modèle économique du MOOC, la question qui nous est posée. Ce projet, a, pour la première et deuxième session, avait reçu le soutien financier de l'UOH, Université ouverte des humanités, et de IUT en ligne.
D'accord.
Et puis, bien sûr, un soutien de l'Université de Lille, qui nous a beaucoup soutenus. Ce budget, pour les deux premières sessions, s'est élevé à 50 000 euros.
D'accord, ce qui n'est pas très très cher finalement.
Non, en sachant qu'on partait quand même de ressources préexistantes.
Ouais, d'accord, donc, il y avait ouais, d'accord.
On a réutilisé.
Tu développais pas tout. Okay.
Pour la remise en place là de ce MOOC pour cette troisième session, donc nous on avait besoin d'un budget pour retravailler quand même avec un ingénieur pédagogique qui puisse améliorer, remettre en place, modifier, dépoussiérer le MOOC, et puis aussi de payer des tuteurs, hein, de rémunérer des tuteurs. Donc là, on a un budget de 10 000 euros à peu près pour cette troisième session.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de relancer ce MOOC alors? Qu'est-ce qui vous a motivé?
La troisième session.
Ouais.
Pourquoi la troisième session? En fait, on avait... déjà pas mal de demandes récurrentes, alors des demandes de participants qui avaient entendu parler d'un MOOC des FIDELF et qui demandaient quand est-ce qu'il serait rejoué. Donc à chaque fois, on répondait négativement. Et puis on a eu un appel à projet qui nous venait de Bienvenue en France. Donc Bienvenue en France, c'est actuellement un pôle qui met en place une stratégie pour attirer les étudiants internationaux.
D'accord.
Et qui a fait le choix cette année de favoriser tout type de dispositif qui peut aider les étudiants internationaux à venir en France, que ce soit en amont de leur départ ou bien à leur arrivée en France. Donc, on a répondu à cet appel à projet et on a eu le financement, donc cette fois-ci pour la troisième session, par Bienvenue en France. Par ce programme Bienvenue en France. Et on s'est lancé, voilà, parce qu'il y avait cette demande et puis parce qu'on a eu cette opportunité de financement.
D'accord, ok. Et donc, les demandes des étudiants eux-mêmes, et puis ça, c'est toujours intéressant. Alors, si on part un peu sur le côté plus pédagogique du projet, si je suis participant, je m'inscris, quelles sont les activités qui vont m'être proposées pour me préparer au DELF, alors?
Alors, on a trois types d'activités, en fait, hein, avec un fil rouge qui est bien sûr la découverte des épreuves du DELF, B2, du format des épreuves, des grilles d'évaluation. Bon, ça, c'est toujours en filigrane hein, notre MOOC, parce qu'on a fait ce choix. Alors, sinon, on a d'une part des activités de compréhension orale et écrite. Alors, à partir de documents authentiques, audio, vidéo, articles de journaux, etc. Et ces activités, alors, elles sont pour certaines autocorrectives, mais dans la plus grande partie, elles amènent l'apprenant à s'auto-évaluer. C'est-à-dire que les apprenants font les activités et ensuite sont amenés, avec des feedbacks qu'on leur donne, à évaluer eux-mêmes leurs réponses. Et cette idée, cette forme d'auto-évaluation, on pense que c'est vraiment une stratégie qui va aider les apprenants à faire des progrès et à mieux réussir le DELF.
Hein. Ouais, donc il y a des activités. T'es aussi dans tes pratiques depuis que je te connais. Hein.
Oui. Ça, c'est vraiment une dimension qui me tient à cœur dans la perspective de l'autonomisation. Mm-hmm. Ensuite, il y a des activités de production. Alors, productions d'outils. On amène les apprenants à faire des cartes mentales, par exemple, pour préparer un champ lexical. On amène les apprenants à réaliser des glossaires pour s'approprier un certain lexique dans un domaine donné. Et puis, une petite production orale et une petite production écrite de type DELF B2.
D'accord.
Et la troisième sorte d'activité, c'est l'activité collaborative. Hein, donc, on leur demande de mettre en commun toute leur production, ils les mettent en commun dans des forums. Donc, il y a vraiment une mise en commun. Alors, ça commence avec une carte du monde où ils doivent poster, mais bon, ça, c'est pas très original. Hein. Je pense qu'on trouve ça dans beaucoup de MOOC. Ils doivent se situer et poster un petit message pour se présenter, mais c'est déjà une première mise en commun. Mm-hmm. Et puis ensuite, toute leur production, leur carte mentale, leur production orale, leur production écrite, ils les mettent sur des forums et ils sont amenés à... C'est là qu'on met en place l'évaluation entre pairs, à faire des commentaires les uns les autres sur les outils que les autres ont produits.
D'accord. Donc, ils mettent ce qu'ils veulent, en fait. Ils enregistrent avec leur dictaphone de téléphone ou ils écrivent avec leur traitement de texte. C'est à eux de se débrouiller pour produire. Et après, ils mettent ce qu'ils veulent dans le forum, quoi.
Voilà. On leur donne des conseils. C'est-à-dire que, par exemple, pour la carte mentale, on leur donne un outil en particulier et puis on propose d'autres s'ils veulent en découvrir d'autres. Pour s'enregistrer, on leur propose aussi des petits outils. Parce qu'on pense que c'est important qu'il y ait cet étayage quand même si la plupart des gens savent aujourd'hui comment enregistrer leur voix. Mais bon, ça fait partie pour moi du guidage, en fait, de leur proposer des outils. Et puis, bon, la dernière activité, mais j'en ai déjà parlé, c'est aussi la place des forums, hein, des lieux d'échange divers et variés.
D'accord. Et toujours pas de solution pour reproduire les situations de dialogue, alors ?
Non, on a un peu renoncé. En ce qui me concerne... Je ne sais pas si on va réussir à mettre en place vraiment une reconnaissance de la parole qui ira jusque-là. Bon, on sait qu'il y a des robots aujourd'hui qui peuvent faire ça, mais comme on est quand même sur du contenu argumentatif, comment imaginer qu'une voix puisse réagir aux arguments de quelqu'un d'autre là, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire techniquement et
mais même sur des choses plus basiques, j'aurais espéré, tu vois, pour des débutants, que on puisse simuler avec des outils des petits dialogues de la vie quotidienne. Ouais, mais j'ai encore rien trouvé de satisfaisant. Hein.
Moi non plus. On peut demander aux auditeurs s'ils ont des idées.
Ouais. Ouais, j'ai vu quelques articles passer sur des gens qui travaillaient avec, tu sais, des assistants genre Google ou Alexa, tu vois, et qui prévoyaient des petites activités pédagogiques pour formuler tes requêtes en langue étrangère. Mais c'était pas très très convaincant pour l'instant. Et pourtant, ça, il y a de la demande là-dessus. Enfin, moi, je sais que mes débutants souvent me disent, mais il n'y a pas quelque chose pour pratiquer les dialogues et tout. Malheureusement.
Oui. Bon, après, ça demande aussi une grande réflexion qui va bien au-delà de l'enseignement, je pense, sur quelle place on veut que Google prenne dans notre vie.
Ah oui. Ben oui, j'ai déjà pas mal de place. Hein.
Donc...
Et qu'est-ce qui se passe quand, parce que si, imaginons, tu vois, donc tu mets en place des évaluations par les pairs, je suis apprenant, j'enregistre une présentation argumentative, je la poste sur le forum, qu'est-ce qui se passe si personne ne réagit ?
Alors, en fait, justement, c'est ce qui nous avait posé problème dans les deux premières sessions, parce que chaque apprenant devait poster une production et évaluer deux autres productions. Mmh. Et si les apprenants n'allaient pas au bout justement de cette évaluation, alors on avait certains qui attendaient désespérément leur évaluation. Alors maintenant, on a travaillé sur un forum évaluatif, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle une des activités sur Moodle. C'est-à-dire que ceux qui veulent postent leur production sur le forum et ceux qui le souhaitent peuvent évaluer la production. Alors, évaluer, ça veut dire quoi ? est-ce qu'un apprenant est capable d'évaluer la production d'un autre apprenant? Il y a beaucoup de doutes sur cette question, et d'ailleurs, certains apprenants n'aiment pas du tout être corrigés par d'autres apprenants. Mmh. Pour nous, cette évaluation par les pairs, c'est l'occasion pour tous les participants au MOOC de découvrir la grille d'évaluation du DELF. Mmh. Donc, on leur donne cette grille et on leur demande d'évaluer la production d'un autre apprenant en mettant des étoiles, même pas des notes, en mettant 3 étoiles si les idées sont bien organisées, 3 étoiles si le lexique est riche et bien utilisé. Voilà. Et en fait, il me semble que cette évaluation par les pairs, elle est presque plus utile pour celui qui évalue et qui, du coup, découvre la grille d'évaluation que par l'apprenant qui est évalué. Parce qu'on ne sait pas très bien, moi je suis encore assez sceptique sur ce que l'apprenant évalué par un autre apprenant va faire de cette évaluation. Est-ce qu'il va y croire? Est-ce qu'il va la prendre en compte? Ça, on ne sait pas trop.
Oui, et puis après, s'il a une mauvaise, enfin, je veux dire, s'il a une étoile partout, ça ne lui donne pas trop de pistes pour s'améliorer, en fait.
Non, non. Mais celui qui a évalué a forcément consulté la grille d'évaluation. Enfin, en tout cas, on espère.
Ouais. Et ça, tu crois qu'ils le perçoivent, cet avantage de prendre connaissance d'une grille d'évaluation qui va être utilisée sur nous en l'utilisant sur quelqu'un d'autre? Tu crois qu'ils en sont conscients ou c'est pas évident?
Alors, tu vois, ces questions-là, justement, ce sont des questions qu'on aborde dans les forums « Apprendre à apprendre ».
D'accord.
Parce que souvent, il y a des réactions qui sont « Oh, ben moi, je ne suis pas d'accord pour être corrigé par un autre ». Et donc, c'est là que le rôle des tuteurs est important, parce que les tuteurs vont expliquer pourquoi on propose cette évaluation, pourquoi la grille d'évaluation est importante. Et puis, il y a d'autres participants qui disent « Ah oui, moi, je trouve que c'est bien, voilà ». Tout ce qui est métacognition, stratégie, c'est abordé dans ces forums. Et c'est très important, je pense. Tout comme, par exemple, la question de l'auto-évaluation, tu vois. L'auto-évaluation, il y a certains apprenants qui disent « Mais moi, je n'arrive pas à évaluer ma réponse. » Mais petit à petit, dans la discussion, dans les échanges avec d'autres, je pense que certains comprennent petit à petit qu'ils peuvent, que c'est quelque chose qui peut vraiment les aider à améliorer leur production et leur compréhension.
Ouais, non, je pense que c'est. On est quand même capable de s'auto-évaluer, même si c'est pas sur des détails. Peut-être tu vois les points de grammaire très très précis. Évidemment que là, on aura du mal à s'auto-évaluer, surtout dans le cadre des erreurs, par exemple. Mais sur une production globale, je pense que tu arrives quand même à savoir tes points forts, tes points faibles. Et puis si tu penses un peu à la genèse de ta production, je pense que il y a certaines stratégies d'évitement dont tu es conscient, tu vois, et que tu peux essayer de combler par la suite, quoi.
Donc ça, c'est vrai pour la production, mais pour la compréhension, je pense que les apprenants, si on leur donne une transcription, si on leur donne une réponse modèle, sont tout à fait capables d'évaluer leur réponse en disant « Ah ben oui, là, j'ai oublié une partie de la réponse. Ah ben non, je me suis trompée, mais je vais réécouter la vidéo pour vérifier pourquoi je me suis trompée, etc. » Encore plus pour la compréhension, me semble-t-il.
Ouais. Et donc tout ça contribue évidemment à garder la motivation, parce que c'est moi j'en ai suivi plusieurs des MOOC, je suis loin de tous les avoir finis. C'est dur de rester motivé jusqu'à la fin. Toi, bon, ça dure 6 semaines, c'est ça, hein, donc c'est c'est un MOOC qui est dans la durée un peu moyenne, je dirais, des MOOC que j'ai pu voir tourner. Oui. Il y a des choses que tu mets en place en plus pour les garder motivés, même si c'est vrai que le DELF, pour eux, c'est déjà une motivation en soi.
Oui, donc c'est vrai que passer l'examen, c'est une motivation, même si tous ne veulent pas forcément le passer juste après avoir suivi le MOOC. Alors, déjà pour rester motivé, c'était important pour nous que les apprenants qui entrent dans le MOOC aient un niveau à peu près suffisant pour pouvoir prétendre réussir le DELF B2. Donc, quand on entre dans le MOOC, et ça, c'est une des particularités aussi de notre MOOC, c'est que les apprenants font des activités qu'on appelle passerelles. Ce sont des activités de niveau B1. On leur propose de les réaliser, de s'auto-évaluer. Et suite à ces activités, on leur demande s'ils estiment avoir le niveau requis pour entrer dans le MOOC. Alors, c'est un peu étonnant pour un MOOC, parce qu'en fait, c'est massif, mais un peu limité, puisqu'on préfère ne laisser entrer que des gens qui ont déjà un niveau B1. Mais il n'y a aucun blocage technique. C'est-à-dire que même, c'est l'apprenant qui décide, le participant qui dit « Oui, j'ai le niveau requis et je veux entrer dans le MOOC. » Donc, même s'il n'a pas le niveau B1, même s'il n'a pas bien réussi ses activités, en vérité, il peut entrer dans le MOOC. Mais c'est quand même une certaine manière, si le niveau est adapté, si les activités sont adaptées à son niveau, alors moi, je pense que ça les démotive moins. J'imagine mal un apprenant de niveau A1 entrer dans un MOOC de niveau B2, par exemple.
Eh ben oui.
Alors, sinon, en ce qui concerne la motivation, on a mis en place, et ça, c'est quelque chose qui plaît assez souvent aux apprenants et qui n'existe pas que dans notre MOOC, on a mis en place des badges.
Ouais.
C'est-à-dire que dès que les participants ont fait telle activité ou ont été très prolixes sur un forum, par exemple, alors ils reçoivent un badge spécial. Et donc, ils ont une espèce de petit sac à badge sur leur profil qui montre qu'ils ont été vraiment très actifs dans le MOOC. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une source de motivation importante. Bon, l'attestation de suivi aussi, ça peut être une forme de motivation, bien sûr. Et puis, encore une fois, l'importance du tutorat, de cette présence tutorale, même si elle n'est pas incarnée en chair et en os, qui est présente dans beaucoup des outils, des tutos qu'on propose. Après, c'est important aussi, et ça se fait beaucoup dans les forums, de créer une communauté. Donner aux participants l'impression qu'ils font partie d'une communauté, même si cette communauté est très grande. Créer une carte où les apprenants vont tous se situer et écrire 2-3 lignes sur leur personnalité, déjà, c'est une manière de former une communauté, les inciter à s'entraider aussi, parce qu'on les incite beaucoup à répondre aux questions des autres participants si eux-mêmes ont les réponses, par exemple.
Ouais. Et si je reviens un peu sur les badges, parce que c'est vrai que c'est un thème, enfin un sujet qui est souvent revenu avec la ludification, donc la gamification un peu des apprentissages. Vous avez passé beaucoup de temps sur ce système de badges. Tu sais, il y en a qui pensent à des pyramides. Donc au début, on en a plein, et puis après, ils sont de plus en plus difficiles à avoir. Ou finalement, c'était je teste d'abord, voir un peu si ça motive vraiment, et puis après, j'affinerai si dans les prochaines éditions, si jamais je m'aperçois que ça a vraiment un intérêt pour mon contenu, en fait.
Alors, c'était pas un système très sophistiqué, je dirais. Il y a des badges qui sont très faciles à obtenir. Par exemple, le participant remplit son profil, il reçoit un premier badge.
D'accord.
Voilà, c'est une manière de lui dire bravo, hein. C'est un feedback de motivation, tout simplement. Quand il réalise les premières activités de compréhension orale et qu'il participe au forum, il reçoit un premier badge, etc. Puis après, quand il y a le badge « j'ai tout fini », il y a le badge de la pipelette sur les forums, on a pris aussi un peu des expressions un petit peu imagées. Voilà, mais c'est pas, il n'y a pas de système de pyramide comme ça, de système progressif. Hein.
D'accord.
Ceci dit, pour la troisième session, on les a modifiés un peu. On a réduit un petit peu le nombre de badges parce que certains nous paraissaient vraiment trop faciles à obtenir. Mais on les a décrits plus précisément pour que les apprenants sachent à quoi ça correspondait exactement.
Ouais, et puis en plus sur Moodle, tu peux mettre pas mal de petites conditions pour les obtenir, c'est assez intéressant. Hein.
Ouais, mais ça, Moodle se prête bien à ça aussi. Hein.
Ouais.
Et
pour attirer donc les étudiants, vous avez pensé ou simplement voilà une promotion, enfin déjà, ouais, comment tu fais pour promouvoir ce MOOC?
Alors voilà, ça c'est la difficulté qu'on a parce qu'on n'est pas sur FunMOOC, justement, hein, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a envoyé dans tous nos réseaux internationaux, alors au CIEP, enfin maintenant France Éducation, on est passé par l'Institut français qui a diffusé ensuite dans tous les instituts français du monde. On est beaucoup passé par Facebook. TV5 Monde nous a aidé aussi à diffuser, comme c'est un groupe qui est très, 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 très grand, le groupe de TV5 Monde sur Facebook, on a diffusé par leur biais. Au niveau national, bien sûr, au sein des universités françaises qui accueillent tous les étudiants étrangers. Et puis, Très récemment, donc, on a eu une conférence. C'est ma collègue Nassim Botebassem qui a mené cette conférence avec tous les collègues du ministère qui travaillent pour Campus France.
D'accord. Oui, donc là, en fait, tu as couvert un peu tout le public qui peut être intéressé par le DELF au niveau international. Après, les initiatives locales, elles seront, je pense, informées elles-mêmes de ce MOOC et puis transmettront au niveau plus régional. Hein.
Oui. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le maillon faible de notre MOOC, je dirais. Et on a dû beaucoup, beaucoup travailler. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, que je suis là, à discuter.
Oui, il va falloir qu'on publie l'émission à temps.
Oui, pour continuer à le diffuser avant l'ouverture le 10 février.
Ouais. De toute façon, les inscriptions peuvent se faire même quand le MOOC a commencé ou
Au moins jusqu'au 7 mars. Pour l'instant, on a fixé le 7 mars. Bon, si on voit que si on peut prolonger un petit peu aussi, hein, ça on verra. Mais pour l'instant, jusqu'au 7 mars. C'est-à-dire que d'accord. Oui, une fois que le MOOC a commencé, on espère aussi que le bouche à oreille va fonctionner. C'est ce qui se passe souvent avec les MOOC, d'ailleurs.
Bah oui, ouais. Et d'ailleurs, ce MOOC, pour toujours dans cette partie un peu promotion, tu penses qu'on peut se former complètement en utilisant uniquement ce MOOC, se préparer au DELF en utilisant uniquement le MOOC, ou tu penses que c'est un complément qui s'intégrerait dans un dispositif de formation plus général, peut-être?
Bon, d'une part, si un étudiant n'a pas le niveau B1 en entrant dans ce MOOC, il est bien évident que
oui, non, ça c'est clair. Ouais.
Il aura beaucoup de difficultés à réussir le DELF B2. Ouais. S'il a le niveau B1, B1+ en entrant dans le MOOC, je pense que ce MOOC des fidèles, cette formation peut lui offrir à la fois la mise en pratique linguistique, la découverte du format des épreuves aussi. Et puis les outils nécessaires pour réfléchir aux stratégies à mettre en place pour réussir aussi bien les stratégies affectives que les stratégies métacognitives, tout ce qui est pour réussir un examen. On sait très bien qu'il faut parfois vaincre la peur, surmonter le stress. Voilà, il y a aussi beaucoup de réflexions à ce sujet sur les forums, par exemple. Donc moi, je pense que c'est un bon outil pour réussir si l'apprenant entre avec un niveau linguistique suffisant. Maintenant, quand on réfléchit à l'avenir des MOOC, c'est vrai qu'on imagine souvent que ces MOOC peuvent être utilisés en complément d'un présentiel.
Ouais. Ou de plans d'auto-formation, tu vois, diverses, où tu vas chercher des sources un peu partout, quoi. Mais,
Tout à fait. Et j'ai des collègues de la DQF que j'ai rencontrée la semaine dernière, qui me disaient qu'elles vont l'intégrer à une session de formation avec leurs étudiants Erasmus, par exemple.
Ouais.
Et que toutes les semaines, donc les apprenants, les étudiants suivront le MOOC, et puis que dans la classe, il y aura un retour sur les activités de la semaine, sur ce qui leur a posé problème, comment ça s'est passé, et peut-être une plus grande place accordée aux productions et à la remédiation dans la classe.
Mais ce que j'aime bien, moi, dans ce MOOC, c'est qu'il a un objectif dans son titre. Et c'est pas mais c'est pas souvent le cas. Des fois, on a découvrir les principes de l'électricité, d'accord. Si je m'inscris à ce MOOC, j'ai pas de projet concret. Et je sais pas trop ce que j'en attends. Je sais pas trop ce que je vais y découvrir. Et là, au moins, avec cette marche du DELF, je sais pourquoi j'y vais et je sais ce que j'en attends. Donc, si j'ai pas fait mon DELF 1 et tout ça avant, je vois pas l'intérêt de m'inscrire à un MOOC de ce niveau, si tu veux. Donc ça clarifie beaucoup de choses, je trouve, déjà.
Tout à fait. Mais si on réfléchit à, c'est une grande question qu'on se pose, ma collègue Nassim et moi, sur vraiment, on se la pose encore, hein, sur la pertinence d'un MOOC pour apprendre les langues étrangères. Parce que apprendre une langue, c'est pas comme apprendre l'électricité, justement. Et il me semble que le MOOC n'est pas forcément le meilleur format pour apprendre une langue étrangère. Mmh. Partant de cette question sur laquelle on était un peu sceptique, il fallait vraiment, enfin, on avait besoin de cibler un public, de cibler un objectif en fait, ouais. Pour emmener tous les apprenants vers ce même objectif et donner plus de sens aux échanges qui ont lieu dans les forums et aux activités qui sont proposées.
Oui, puis en général, c'est un objectif qu'ils se sont eux-mêmes fixés.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est encore mieux.
Oui, oui.
Alors, bah, je veux dire, c'est
important parce que parfois les participants arrivent et pensent que en suivant ce MOOC, ils vont obtenir le DELF B2. Donc ça, il faut être bien clair aussi. L'attestation de suivi ne fait qu'attester qu'ils ont bien suivi cette préparation. Ensuite, il faut qu'ils s'inscrivent aux épreuves du DELF et qu'ils les passent, bien sûr.
Ouais, mais tu vois, pour moi, ça a beaucoup plus de sens de faire un MOOC défi DELF que par exemple un MOOC travaillé en français. Qui pour le coup serait, je pense que ce serait, je m'avance peut-être un peu, mais j'imagine que si quelqu'un se disait tiens, je vais créer un MOOC FLE qui s'appellerait travailler en français, on aurait.
Il y en a un qui existe comme ça. Ouais, c'est l'Alliance française.
Ouais, tu vois, bah moi j'aurais pas fait ça.
Ça, tu peux couper peut-être, non?
J'ai rien à craindre tellement de l'Alliance française. Peut-être qu'au contraire, ils me contacteront pour me dire à quel point j'ai tort et je serais content de l'entendre. Mais ça me paraît un peu dangereux, un peu risqué comme démarche.
Oui.
Sauf si après on spécialise dans les différentes spécialités de travail en étant capable de déterminer.
C'est le cas de ce MOOC en fait. Ouais, c'est le cas de ce MOOC travailler en français. Il y a un module sur travailler sur des chantiers. Enfin, je veux pas trop m'avancer,
mais en tout cas,
il y a des catégories professionnelles différentes qui sont représentées.
Eh oui, c'est ça, parce que sinon, si on reste trop général comme ça sur juste travailler en français, c'est ça devient trop risqué parce que des gens avec différents objectifs vont tous s'inscrire au MOOC pour finalement souvent être déçus, je pense. Alors que si on est dans son domaine de spécialité, ça devient un peu plus simple. Alors d'ailleurs, parce que là, tu es sur le DELF B2, est-ce que tu aurais envie, toi, de faire des DELF un peu plus infra ou voire même préparer au DALF?
Eh bien, c'est exactement cette question que nous a posée le ministère avant-hier.
Ah.
C'est un autre travail, c'est un autre MOOC, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Donc, ce serait envisageable. Je ne sais pas si nous, on le fera. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres institutions qui s'y mettent et avec d'autres idées, avec d'autres choix aussi. Il existe un MOOC pour se préparer au DALF C1 qui a été joué 2-3 fois sur FunMOOC. Qui a été fait par des collègues tunisiens. Donc, il y en a qui s'y sont essayés. Je veux juste te dire que je pense que ce serait un autre MOOC, en fait.
Et donc, pas le même dispositif que tu reproduis pour chaque niveau.
Oui, je pense qu'on ne peut pas reproduire les mêmes dispositifs. Là, on est vraiment parti des ressources, en plus. Hein. L'objectif premier, c'était valoriser les ressources qui existaient déjà, qui existent sur l'UOH et qui existent encore sur l'UOH, d'ailleurs, même après le MOOC. Donc là, il faudrait tout construire.
Ouais. Enfin, des fois, tu vois, bien organiser ses ressources, c'est ce que nous disaient quelques collègues à nous. Hein, bien organiser ses activités, faire la bonne recette, c'est aussi un art. Hein.
Ça prend du temps. C'est un temps énorme.
Ouais.
Un temps
c'est
énorme.
Clair. Mmh.
On a nos collègues de Grenoble là qui, enfin, eux, ils créent leurs ressources déjà, leurs ressources vidéo qu'ils créent un MOOC qui va s'appeler MOOC to Move to France. MOOC to Move to France.
D'accord.
Donc là, oui, c'est vrai. La création de ressources, ça prend du temps. Mais l'organisation des ressources, ça prend aussi beaucoup, beaucoup de temps. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait que ça, je dirais, organiser nos ressources pour créer un scénario pédagogique pour le MOOC. Mais c'était beaucoup de temps. Ouais.
Alors, pour terminer un petit peu, pour soutenir ce projet, qu'est-ce qu'on peut faire? En parler?
Alors, surtout en parler autour de vous, le diffuser, le faire connaître, le diffuser dans vos réseaux, le présenter à vos collègues, le présenter à vos apprenants et vous inscrire pour voir comment ça se passe à l'intérieur.
D'accord.
Je pense que c'est intéressant pour les enseignants
de ressources,
aussi.
Hein. Ouais. T'as plus besoin de ressources en plus, de personnes. Votre équipe est au complet. Hein.
Non, mais chaque participant peut jouer le rôle de tuteur sur les forums. C'est ce qui s'est passé dans les premières sessions. C'est très intéressant. Hein. Il y avait des enseignants qui endossaient tout de suite le rôle de correcteur, d'apport d'explications linguistiques ou culturelles.
Oh, c'est de la déformation professionnelle, ça.
Oui. Non, mais ça aide le MOOC aussi à exister. Hein. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas gênant s'il y a des enseignants sur les MOOC, par exemple.
Ah ben non, c'est ouvert à tous.
Bien sûr.
S'ils ont le niveau B2.
20% du public sur les MOOC sont des enseignants.
Ah ben, tu vois. Ben Martine, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour un peu de ce projet. On espère que les auditeurs vont en parler autour d'eux, dans leur classe et peut-être avec leurs collègues et leurs institutions respectives.
Ben j'espère bien. Merci en tout cas à toute l'équipe d'Agito. Merci Sébastien de m'avoir invité à...
Ben, on devait être plus nombreux, hein, mais malheureusement, Fred avait du boulot et puis Marion est tombée malade. Donc, ben, on espère qu'elle se rétablira bien vite.
Bon rétablissement à Marion, et merci surtout à toute l'équipe de diffuser autour de vous. Hein, voilà, rendez-vous peut-être sur le MOOC, à l'intérieur de Défidèle. Merci beaucoup.
Merci à toi, salut.
Au revoir.
Et voilà, c'est terminé pour ce numéro 19 des Agités du FLE. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'émission et sur le site Agito. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et des commentaires sur iTunes, je ne sais plus si ça existe, mais en tout cas sur le Apple Podcast. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur PodCloud, évidemment, nos chouchous. Et puis, la discussion se poursuit dans les commentaires sur le site Agito, sur la communauté. On vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes et d'ici là, bon cours !